iOS 17, c'est donc la nouvelle version du système de l'iPhone qu'on attendait énormément en ce lundi 18 septembre. Elle est arrivée, vous pouvez l'installer sur votre iPhone. On est tous passés, je crois, à iOS 17 depuis quelques heures. Non, sauf Ellie. Alors Ellie, dis-nous pourquoi. Et puis après, je poserai la question à François et à Fabrice sur leur installation.
Alors, pour une raison très simple, c'est que iOS...
C'est une version impaire.
Non, 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 17, c'est une version impaire, bien sûr. Non, c'est parce que c'est sur mon iPhone Pro 14 aujourd'hui, et donc c'est mon iPhone de travail principal, où j'ai énormément d'applications, certaines qui sont assez anciennes, mais que je garde pour des tas de raisons. Et donc, je n'ai pas voulu courir le risque de me retrouver à quelques jours de l'arrivée de mon iPhone 15 Pro avec déjà un système qui aurait pu me planter pendant quelques temps. Donc, je me suis dit, je vais être prudent, je vais continuer à utiliser mon iPhone parce qu'en ce moment, on a tellement de boulot que je ne peux pas me permettre de dire, mais j'ai telle appli qui ne marche plus, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en trouve une autre, etc. Je n'ai pas le temps. Donc, j'ai décidé d'être prudent et comme c'est un appareil vraiment, vraiment, vraiment de boulot, même si là, c'est la version finale, hein, il s'est déjà produit des petits bugs de 48 premières heures. Donc, ça fait des années que je vous dis à tous d'attendre 48 heures si vous le pouvez sur des machines principales, pas sur des machines de test, pour être sûr que lorsqu'il y a une nouvelle release majeure, il n'y ait pas de petits bugs cachés, parce que souvent, il y a une 17.01 qui attend à l'arrivée des nouveaux iPhones. Vous verrez qu'il y aura une 17.01 hein, par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. Je parle des nouveaux iPhones, ceux que vous n'avez pas encore. Hein, mais... Bon, donc, pour tout ça, je me suis dit, je vais être sage et j'ai quand même installé tvOS parce que c'est sur un iPad perso, donc je peux. Et j'ai installé tvOS parce que c'est sur un Apple TV perso et donc je peux prendre le risque même si là je n'ai eu aucun bug dans aucun des deux et je pense que vous ne prenez pas de risque aujourd'hui à installer iOS 17 sur un appareil, c'est juste que moi je ne voulais pas le faire et qu'en même temps je vous l'avais expliqué je crois la dernière fois, c'est une découverte du nouveau téléphone avec le nouvel OS, donc c'est un double bonus et,
ouais,
et le plaisir sera plus grand. Voilà.
Voilà, c'est ce que tu aimes faire.
C'est ça.
Bon, donc Ellie, tu vas pouvoir écouter
sagement
le témoignage de Fabrice et de François. Vous avez installé tous les deux comme moi, aucun problème à l'installation.
Comme on disait tout à l'heure, je crois, le jour même donc de la sortie, donc hier au moment où on enregistre, moi j'ai pas fait de mise à jour en fait, je l'avais déjà.
Oui, tu l'avais
parce
déjà.
Parce qu'il y a quelques jours auparavant était sortie la ARC, la Release Candidate, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la version pré-finale qui est normalement et celle qui est dans les boîtes ou en tout cas est considérée comme la première version 0.0 du système. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas eu pour l'instant de 0.01, etc., comme décrit Ellie, qui vont arriver naturellement, mais pour l'instant, il n'y a pas eu ça.
François, est-ce que tu as aussi installé la bêta qui est devenue la finale ou est-ce que tu as fait une installation comme le commun des mortels et comme moi?
Non, elle était déjà faite, déjà installée depuis de juillet, je crois, de mémoire. J'ai dû attendre la bêta publique quand même, puisque j'ai eu des mauvaises expériences avec les bêta développeurs. C'est les mêmes versions, hein, c'est pas le souci, mais j'ai préféré attendre la bêta publique en me disant que potentiellement les gros soucis auraient été écrémés. Mais c'est vrai qu'honnêtement, moi, les nouveautés sur Fabrice les a listées, mais je trouve que c'est vraiment pas le système qui a le plus évolué, ni iPadOS. Je pense que c'est vraiment du côté de WatchOS où j'ai vu une grosse différence. Mmh. Je trouve que les nouveautés du côté d'iPad et iOS, c'est pas une version majeure, mais bon, je crois qu'il faut s'y faire. C'est un peu comme les iPhones ou comme ça évolue petit à petit par petites touches. Et je pense qu'il faut arrêter d'imaginer qu'on va avoir la roue va pas changer tous les ans, quoi.
Ouais. En tout cas, on retrouve toutes les nouveautés qu'on vous a déjà présentées dans la première partie. Et puis des nouveautés spécifiques à iOS, Fabrice, notamment au niveau de l'appareil photo, puisque c'est quand même un des points qui a pas mal bougé, évidemment, sur la gamme iPhone 15.
Alors oui, la gamme iPhone 15, Donc c'est pas encore tout à fait disponible, mais ça va pas tarder. On en a parlé pendant notre débrief notamment, hein, des capacités notamment physiques des iPhone 15 Pro et du Pro Max avec son objectif optique à 5 fois, je veux dire son zoom optique à 5 fois, des choses comme ça. Le capteur 48 mégapixels qui se retrouve à la fois sur les Pro et sur les 15 tout court. Comme il l'était déjà sur le 14 Pro, avec quand même un nouveau mode qui permet de créer des photos en 24 millions de pixels
Ouais.
plutôt que de les réduire aux 12 millions de pixels au préalable, quel que soit l'objectif et le capteur utilisé. Je crois avoir compris que ce mode en 24 millions de pixels serait aussi disponible sur le 14 Pro. Ça, c'est pour tout ce qui est. Alors, ça veut dire aussi, alors, il me semble que ce sera disponible sur le 14 Pro aussi, le fait que l'appareil va faire de la détection automatique du mode de portrait. Je crois qu'on l'avait évoqué aussi. C'est bon de rappeler ça.
Ouais.
C'est qu'aujourd'hui, on veut faire un mode portrait. Alors, on choisit un mode portrait pour avoir un effet bokeh, comme on dit, c'est-à-dire de flou à l'arrière-plan. Et là, en fait, on n'a pas forcément besoin de s'en souvenir. L'appareil va le détecter, enfin, finalement, va prendre la photo et on pourra, dans l'application photo, choisir de flouter l'arrière-plan
C'est
a
ça.
posteriori, voire de changer le plan de mise au point. C'est pas tout à fait la même chose, mais pour dire finalement, je préfère faire la mise au point de la personne qui est derrière plutôt que celle qui est devant, et tout ça comme ça. Donc, ça c'est assez étonnant
C'est
et
chouette, ouais.
ça va être très chouette.
Donc tu confirmes, ça descend sur la gamme 14 aussi.
Il me semble que ça descend sur la gamme 14 Pro.
Ah, pro.
Alors pour ce qui est de la production d'une photo en 24 millions de pixels, c'est évident puisqu'il faut un capteur au-dessus de 24 millions, ce qui n'est pas le cas du 14 et des versions précédentes.
Ouais.
Pour ce qui est du mode portrait automatique, et là j'ai un trou, je ne sais plus si ça descend sur le 14 Pro.
Bon, tu sais quoi, on va vérifier pendant qu'on continue de dérouler les nouveautés propres à iOS 17, alors, pour la photo.
Voilà. Et notamment, alors le petit truc que j'ai découvert juste avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que on peut déjà afficher une grille quand on prend une photo sur un iPhone pour découper le viseur en 9 parties pour faire
Ouais.
La règle des tiers.
Voilà.
là pour faire la règle des tiers,
Tu
exactement.
as quand même un formateur photo professionnel avec toi,
Est-ce que
Fabrice,
tu veux nous expliquer
profites-en.
en quelques mots ce que c'est la règle
Oh
des tiers,
oui.
François, s'il te
Oh
plaît?
oui. Ah, je vais faire court. En fait, c'est une vieille règle historique de la photographie qui permet. En fait, on considère qu'une photo idéale, une des règles photographiques, c'est en fait de diviser sa photo en trois, que ce soit en verticale ou alors en horizontale, trois parties équivalentes, d'où la règle des tiers. Et on considère aussi qu'en fait, les éléments les plus impactants de votre photo doivent se retrouver au croisement de ces quatre lignes. Et donc, ça vous fait quatre points d'impact. Et donc, imaginons que vous ayez envie de me cadrer actuellement. En train de vous regarder, et si je m'amusais à regarder vers la droite ou vers la gauche, mais en fait, il faudrait me caler dans un des coins, dans un des croisements des points, et voilà, ça fait partie des règles photographiques. Et effectivement, on peut le rajouter, et tu l'as mis dans la liste aussi. Il y a aussi le niveau à bulle, et c'est vrai qu'une sorte de niveau en fait qui permet d'être sûr d'être droit, ça c'est activable sur pas mal d'appareils photo, et c'est vrai que moi, ça fait partie de mes combats quotidiens avec mes étudiants, avec mes petits stagiaires, c'est de leur dire que une photo ça doit être droit, c'est-à-dire que les lignes d'horizon, les éléments formel que vous auriez, les lignes des bâtiments, etc., ça doit être droit parce que ce sont des éléments qui sont compréhensibles pour le spectateur, en dehors de la tour de Pise, évidemment, qui elle n'est pas droite, mais le reste des bâtiments doit absolument être droit, surtout quand on travaille en architecture.
Et donc, alors cette grille était affichable depuis de plusieurs versions d'OS. Et ce qui est nouveau dans iOS 17, c'est ce niveau, un bulle pour s'assurer qu'on prend une photo à l'horizontale ou à la verticale, en tout cas à angle droit par rapport aux éléments qu'on est en train de regarder. Et puis le petit truc, et ça, il me semble qu'ils avaient présenté ça à la WWDC, mais de rappeler parce que je trouve ça rigolo et pratique, c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo des étiquettes sur ses vêtements et l'iPhone va reconnaître les symboles que je suppose vous comme moi ne retenez jamais, ce que ça veut dire le triangle barré, le carré, le machin, pour vous dire si vous pouvez le laver à la main, s'il faut le laver à la main ou on peut le passer en machine, si on peut le passer au sèche-linge ou pas. pas, etc. Donc ça fait une reconnaissance automatique des symboles, je trouve ça plutôt marrant.
Oui.
Génération d'assistés.
J'ai un début de réponse sur la rétrocompatibilité de l'ajustement, de la mise au point. Mm-hmm. Alors effectivement, elle n'est pas réservée à la gamme iPhone 15. On la retrouve aussi sur le 14 Pro, comme tu le disais. Puisque le 14 Pro utilise le même processeur que le 15 et le 15 Plus, qui bénéficie de cette fonction aussi. Alors l'article de 9to5Mac sur lequel je suis mentionne également le 14, le 14 Plus et la série 13, en disant que le contrôle de la profondeur de champ et de la mise au point est aussi disponible sur ces téléphones, ce qui me semble.
Oui, je te confirme, c'est bizarre. Ce que dit aussi mon camarade Fabrice Brochin qui travaille comme moi pour comment ça marche et qui a fait l'article des nouveautés sur iOS 17 et c'est ce qu'il dit aussi.
Et apparemment, on peut modifier la mise au point, y compris sur des photos, d'anciennes photos. Si vous avez pris des photos il y a 2 ans, vous pouvez changer la mise au point à condition d'avoir un de ces iPhones et iOS 17.
Alors, ça veut dire que les informations de profondeur sont conservées. Ouais. C'est pour ça qu'on l'avait évoqué aussi. Il y avait une application qui s'appelait Focos, F-O-C-O-S, qui permettait de faire ça, en fait. Qui était sur l'App Store et qui donc est morte depuis longtemps, ou en tout cas maintenant c'est définitif. Je me souviens plus s'il fallait prendre la photo avec l'application ou pas. À l'époque c'était un peu lent, c'est une sorte de justification de se rendre compte de ça, de parfois on trouve qu'Apple est un peu lent à ajouter certaines fonctions. Et donc, des développeurs s'engouffrent dans ces possibilités pour proposer des fonctions supplémentaires. Mais du coup, on s'aperçoit que le temps de traitement est long parce que sur un iPhone 11 à l'époque, faire des changements de floutage arrière, ça demande beaucoup, beaucoup de calculs. Et donc, ce n'était pas prêt. En tout cas, pour les standards d'Apple, ce n'était pas prêt. Voilà, je trouve ça intéressant comme illustration.
Donc voilà, on essaie d'être le plus complet possible. On passe à la nouveauté suivante d'iOS 17.
Oui, petite chose aussi, c'est rigolo ça. C'est on peut annuler le déplacement d'une appli, d'une icône d'appli sur l'écran d'accueil. Je pense que ça nous est tous arrivé quand on fait du réarrangement, du rangement de ces icônes sur les écrans d'accueil que j'ai fait notamment avec l'arrivée des widgets interactifs. C'est que c'est pas toujours simple. Donc on fait gigoter les icônes, on en saisit une et puis on essaie de la placer ailleurs et puis finalement elle se met par-dessus une autre, on crée un dossier, il faut la ressortir, c'est agaçant. Enfin bref, ce mode de déplacement des icônes sur iOS, ça mériterait d'être retravaillé un peu en termes d'ergonomie, c'est quand même pas terrible. Sauf que là, première étape, c'est que si jamais vous vous plantez dans le déplacement d'une icône, on peut l'annuler. Je vous rappelle, vous avez peut-être oublié pour certains, que pour faire un POMZ sur un iPhone, il faut le secouer. Voilà. Donc,
j'avais oublié.
C'est là où généralement on le casse, parce qu'on le fait doucement, ça ne marche pas. On le fait un coup et...
Voilà. Donc, on le tient bien dans la main et on secoue assez sèchement et on va avoir à l'écran une petite fenêtre qui vous propose, voulez-vous annuler la dernière action? Et donc, une des nouvelles actions qu'on peut annuler, c'est le déplacement d'icônes sur l'écran d'accueil. Je trouve ça plutôt intéressant, plutôt marrant et pratique. Autre chose, on va pas redétailler le bouton action sur les iPhone 15 Pro, je pense qu'on y reviendra quand on aura pu mettre les doigts dessus, mais les premiers tests qui sont sortis aujourd'hui montrent que c'est intéressant et c'est pratique. J'ai bien aimé la vidéo de MKBHD, Marques Brownlee, qui en a parlé et qui a dit qu'il allait lui choisir comme action de mettre l'assistant Google pour remplacer Siri, parce que du coup il trouve que l'assistant Google est quand même beaucoup plus efficace que Siri et je trouve ça marrant et en tout cas aussi intéressant. Apple laisse le faire, Je vous rappelle que Samsung avait sorti des téléphones avec un bouton spécial pour son assistant à lui qui s'appelait Bixby. Ouais. Et c'était un bouton spécifique pour Bixby qui n'était pas programmable. Et donc, soit on utilisait Bixby, soit on n'utilisait pas le bouton. Donc, au moins, Apple laisse le choix d'utiliser un autre assistant vocal. Je trouve ça marrant. Petite chose, l'iPhone est capable, et même semble vous le dire un peu trop, pour ceux qui recevront parmi nos camarades des iPhone 15, là, ça doit marcher sur les autres aussi. L'iPhone est capable de vous dire si vous regardez l'écran de trop près, oui. Pour essayer de lutter contre tout ce qui est myopie et tout ça. Donc, c'est un message de prévention pour dire ne regardez pas trop près, ou il nous fait peur. Ah, Benjamin nous fait peur en regardant la caméra trop près. Voilà, donc ça c'est pas mal non plus. Ça a l'air, j'ai vu là pour le coup le test de Joanna Stern du Washington Post qui elle a dit bon, je l'ai déconnecté ce truc là parce que ça se déclenchait tout le temps pour moi, dit-elle. Donc elle doit regarder un peu son écran un peu près. En tout cas, ça doit correspondre à sa vision. Et puis, dernière petite
chose... Du coup,
chose,
elle n'est pas prête d'utiliser un Vision Pro, du coup, elle.
Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir sa vidéo, parce que les vidéos que fait cette journaliste sont toujours un régal à regarder. Dernière chose aussi, il y a le mode veille donc d'iOS 17. Ce mode veille se déclenche lorsque l'iPhone est en charge et qu'on le met à la verticale en mode paysage. Et à ce moment-là, il se transforme un peu comme une sorte il affiche des gros widgets sur fond noir comme si c'était un radio réveil ou un cadre photo ou des choses comme ça. On peut choisir tout un tas de choses ou juste une grosse horloge par exemple.
C'est chouette, faut juste le bon support
pour... Voilà. Donc ça veut dire que c'est plus efficace avec un support magnétique, un chargeur MagSafe qui met le téléphone en mode vertical. C'est plus adapté pour les modèles Pro qui disposent d'un écran qui est justement destiné à être laissé allumé.
Mais oui.
Ça marche avec les autres. Ça marche par exemple moi avec mon vieillissant iPhone SE de 2020, mais l'écran va s'éteindre quand même au bout d'un certain temps parce qu'il n'est pas fait pour ça. Donc, mais beaucoup de gens trouvent ça sympathique. Ce qui me fait rire quand dans les exemples que je vois, c'est que ceux qui regardent ça et qui trouvent ça génial ont tous donc des, comme tu disais finalement Benjamin, des supports qui coûtent eux-mêmes 150 € pour
ça.
Que ce soit joli à regarder. Quoi. Voilà.
C'est
donc là, c'est la limite de la vie rêvée des youtubeurs, je trouve. Il y a un moment, il y a des limites dans ce qu'on peut acheter ouais. comme accessoire.
Le fameux support qu'on a vu chez Apple, j'ai vu que Greg Joswiak en avait un sur son bureau justement en mode standard.
Oui.
C'est vrai que c'est très joli. Ce support, il vient de chez qui, on sait, Eli?
Belkin.
C'est Belkin.
Ouais, c'est Belkin. Belkin hein. Ouais.
Il a un prix, ce
support.
Il
est entre 130 et 150 € de mémoire.
Je crois. Parce qu'il est MagSafe.
Ouais.
Bah, il y a intérêt pour ce prix-là.
Bah oui, c'est ça.
Et il recharge l'Apple Watch et les AirPods. Donc, c'est un chargeur 3 en 1. Donc, c'est le genre de truc que vous pouvez avoir sur votre table de nuit. Je trouve ça quand même pratique.
Ouais, il est beau.
Mais non, c'est pratique, bien sûr. Bien sûr.
Mais il faut un modèle pro, quoi. Du coup, idéalement. Okay.
C'est quand même plus adapté pour les modèles pro. Parce que les modèles pro, on rappelle, sont les seuls qui ont ces écrans qui peuvent rester allumés, qui ont ProMotion, donc avec l'affichage, le rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et des choses comme ça. C'est pour ça que c'est plus adapté.
Ok.
Voilà ce que j'ai trouvé. Allez, peut-être un bonus.
Ouais.
Il y a les fiches de contact qu'on peut personnaliser et puis qu'on peut échanger facilement par presque contact. C'est pas encore tout de suite, ça va pas tarder. Mais en gros, c'est le retour pour les plus anciens d'entre nous qui se rappellent du beaming entre Palm Pilot. On pouvait s'échanger ses cartes de visite par infrarouge. Et c'est un peu le retour comme ça, parce qu'on peut rapprocher son iPhone avec celui de quelqu'un d'autre pendant qu'on est en train de...
Mais comment on fait concrètement alors pour que ça se...
Ben on les approche en fait, il y a une détection automatique et à ce moment-là il y a une petite animation qui s'affiche à l'écran et...
Il faut dire, voulez-vous partager votre contact, c'est ça?
Et voilà, et on peut... il faut valider l'envoi et aussi la réception et voilà, mais c'est très automatisé, c'est plutôt joli. Voilà,
ça arrivera plus tard dans l'année. C'est pas encore dans la version
0. C'est pas encore disponible. Ouais, tout à fait.
C'est tout pour iOS 17, mon cher Fabrice ?
C'est tout pour iOS 17, absolument.
Alors, on respire, on boit un coup d'eau et on revient pour iPadOS 17. iPadOS 17, autre mise à jour dispo depuis ce lundi.